Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Plus c'est dur, plus t'as envie de te battre, j'ai tendance à dire. Plus c'est facile, moins t'as envie de te battre. Donc plus c'est dur, plus peut-être tu peux faire quelque chose assez d'extraordinaire. Alors j'ai l'exemple, alors là l'exemple a quand même plusieurs dizaines d'années, mais d'un bédouin qui s'appelle Moued Altrad, qui arrivait en France, qui ne savait pas parler un mot de français, il avait 20 ou 21 ans, qui a été ensuite naturalisé français, il est en région de Montpellier. Mmh. Il a monté le groupe éponyme qui s'appelle Altrad, et c'est le leader mondial dans l'échafaudage et tout ce qui est restauration de centrales nucléaires et autres. Mmh. Il est parti de rien, avec rien du tout. Mmh. Donc c'est encore possible. Alors, 20, 30 ans plus tard, est-ce que c'est encore possible? Je pense que oui, c'est toujours possible. Il y a très peu d'exemples, mais je pense que c'est possible honnêtement.
Il y a peu de temps, j'ai ouvert Forbes et j'ai vu ma maman dans le classement des femmes d'influence. J'étais non seulement fière, mais très très émue. C'est du perso, me direz-vous, mais j'assume totalement. J'ai besoin de lui rendre hommage à elle et son réseau de femmes entrepreneuses qui s'appelle Wimana. Car c'est finalement en grande partie grâce à elle que je sais ce que veut dire ténacité, conviction et combat au féminin. Mais ce qui m'a également touchée, c'est que ce soit un homme qui soit à la source de la reconnaissance de son travail. Cet homme, vous allez l'entendre dans ce podcast, il est profondément féministe. Il est patron de presse, indépendant, féministe, ça ne court pas les rues. Donc je suis vraiment très très heureuse de partager cet épisode avec vous. J'ai voulu lui donner la parole, j'ai voulu comprendre sa démarche, et je pense que vous allez vous en rendre compte, il a une énergie positive assez rare, et ses messages simples sont utiles. Il est entrepreneur, généreux, courageux, et surtout toujours de bonne humeur. Avec lui, on a parlé de la licence de marque comme outil pour créer son entreprise, de méritocratie en France, de la garage mentality, à savoir faire avec rien, de l'indépendance capitalistique quand on est patron de presse, de sa vision de l'économie française, de la différence entre héritier et milliardaire, des femmes entrepreneuses en France qui sont bien souvent influenceuses également, de Bernard Arnault et de ses conseils business lorsqu'on entreprend. Je suis ressortie de l'interview de très très bonne humeur et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Dominique Busseau, le PDG de Forbes France. Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie que tu aies accepté parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Mais je vais te demander, si ça ne te dérange pas dans un premier temps, de te présenter autant professionnellement que personnellement, si c'est possible. Si tu veux pas parler du perso, tu parles pas du perso.
Il n'y a pas de souci. Donc bonjour Estelle. Merci pour ton invitation. Je suis très flatté, très honoré, comme je viens de te le dire il y a quelques instants. Donc, professionnellement, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le monde des médias. J'ai commencé très tôt dans l'Internet en 95.
Ouais.
Je crois que la première publicité que j'ai vendue sur Internet, c'était en fin 95, sur un site sur les réseaux et les télécoms, qui s'appelait Réseau et Télécoms.
Ouais.
On avait fait une bannière en Rich Media. Il y avait le chien Sun de The Network qui, quand on passait la souris dessus, il bougeait, il aboyait. Donc, on a fait du chemin très tôt. Et en 96, une des premières newsletters, qui était le Club Access.
Ouais.
Donc voilà, donc presse online informatique. Ensuite, j'ai élaboré et monté la JV Emma.nadou. Alors, feu, ouais. C'est deux marques, puisque Emap maintenant est devenu Orange.
Ah ouais, ça me paraît vieux.
Enfin, Wanadoo est devenu Orange.
Ouais.
Et Emap est devenu Mandat Doré, qui récemment est devenu Reworld Media. N'est-ce pas? Donc voilà. Et ensuite, j'ai travaillé pour le groupe VNU, un groupe de presse informatique européen.
Mm-hmm.
Et en 2007, j'en ai fait un management buyout et j'ai monté Net Media Europe, que tu dois connaître très certainement.
Oui, je connais.
Que j'ai présidé de 2007 à 2014. Et puis, suite à un petit différend avec mes investisseurs, je suis reparti avec mon petit bâton de pèlerin.
Mmh.
Et j'étais aux États-Unis rechercher quelques marques, dont Forbes.
Mmh.
Et j'ai contacté les gens de Forbes. Et j'essaie de les convaincre de lancer Forbes en France. Et je leur ai dit que ça pouvait se faire qu'avec moi et avec personne d'autre. Ils ont rigolé, puis après, ils m'ont un peu pris au sérieux, la preuve. Et au bout de quelques mois de négociations, j'ai acheté la licence. Et donc, j'ai lancé Forbes sous format digital en novembre 2016 et sous format print en octobre 2017. Voilà, ça fait un peu plus de 3 ans.
Ça doit pas être évident de négocier avec... Comment ça s'est passé? Enfin, est-ce que tu as des anecdotes sur la négo avec, que tu peux révéler, bien entendu, hein. Je te demande pas de parler de trucs confidentiels, mais moi, je suis toujours assez étonnée par tu vois, cette démarche qui consiste à aller s'attaquer à un truc qui, finalement, semble peu accessible pour beaucoup de gens.
Bah alors, effectivement, quand j'avais échangé avec un ami qui m'a dit, tu sais, Forbes n'existe pas en France. Mmh. Et je lui ai dit, mais Forbes, tu te rends pas compte je suis qui pour aller voir Forbes? Il m'a répondu, plus c'est gros, plus ça passe. Et donc, l'anecdote, alors, j'ai une belle anecdote, c'est que au bout d'un certain temps, il me donne l'email du directeur, du président de Forbes, s'appelle Mike Federley. Voilà, c'est mfederley@forbes.com. Donc, je lui envoie un email.
Moi, tout le monde l'a maintenant.
Voilà, merde. Et donc, je lui envoie un email et pas de réponse. Je dis, bon, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Et au bout de quatre jours, je reçois une réponse, mailer demand return. Je m'étais trompé, j'avais mis Forbes au lieu de Forbes. Ah. Je me suis dit, bon, je recommence, j'envoie l'email. Et dans la nuit, il m'a répondu en mettant en copie VP des licences, en me disant, bah, fais un call avec mon VP des licences.
Mais ils ont ça, les Américains, quand même. Ils ont cette réactivité incroyable, moi, je trouve.
Et donc, j'ai fait ce call quelques jours après avec le VP des licences, qui m'a pris pour un enfant. Il m'a dit, retourne jouer dans ta cour. Il faut beaucoup d'argent pour faire une licence. Merci, sympa, à plus tard. Ça a commencé comme ça.
Ok.
Et 15 jours après, je l'ai appelé en disant, je suis à New York, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble, on peut se voir. Demain, il m'a dit, bon, c'est à New York, bah oui, on a qu'à se voir. Donc, après avoir accroché, j'ai pris un billet d'avion et je suis parti à New York. Ouais. Et j'ai donc déjeuné avec le VP des licences et j'ai ensuite fait le pied de grue devant le bureau du président que j'ai rencontré. Ça a pas mal matché. On a discuté pendant une heure et demie. Et puis deux semaines après, il m'envoie un email en me disant, mais écoute, si t'es à New York la semaine prochaine, je dis bien évidemment, je te présente mes huit coprésidents et tu viens nous dire pourquoi on ferait Forbes avec toi en France.
Wow.
Et donc, je suis été à New York et j'ai été 5e avenue dans leur boardroom. Je devais être devant huit. J'avais le DG marketing, sales, éditorial, technologie, circulation, vente, enfin voilà, etc. Il me dit, bah voilà. Donc, avec chacun d'eux, j'ai parlé du métier. Étant média entrepreneur, donc un peu touche à touche, mmh. Je savais que j'étais capable d'avoir le langage pour chacun d'entre eux. Et puis voilà, donc après quelques semaines, j'ai reçu un contrat. Puis après, il y a eu un gros blocage pour des raisons qu'ils avaient de problèmes avec leurs associés, à l'époque, leurs actionnaires. Mmh. Puis quelques mois après, les discussions ont repris. Et puis, il y a aussi pas mal d'autres anecdotes, mais pour le moment, on va s'en arrêter là.
Ok. Et perso, tu as des trucs à nous dire ou pas?
Non. Écoute, perso, j'ai deux enfants.
Ouais.
Paul et Diane,
ouais.
Qui ont 15 et 13 ans, qui sont adorables. J'adore le sport, les sports un peu extrêmes, les sports un peu risqués, les sports
genre
de glisse. Genre la chute libre.
Ah ouais.
Genre le snowboard. J'aime bien faire des sauts par arrière en snowboard. Genre le wakeboard. Genre le VTT à fond. Voilà, genre de choses. Course de voiture, voitures anciennes. Voilà.
Magnifique.
En quelques mots.
Est-ce que tu peux nous faire une petite carte d'identité de Forbes, aujourd'hui Forbes France, juste pour que les gens se rendent compte, parce que voilà, ils ont peut-être pas forcément notion, tu vois, du nombre d'exemplaires. C'est quoi la formule? Enfin, est-ce que c'est par abonnement? Est-ce que c'est
d'accord,
pas par
alors,
abonnement?
Je vais même faire une cartographie. Je vais faire rapidement monde et puis France comme ça. Pour
ah ouais, très bonne
alors,
idée.
Donc Forbes magazine lancé par John Malcolm Forbes en 1917.
Ouais.
L'idée, c'était de parler des belles aventures entrepreneuriales. Donc, c'est magazine centenaire. Le plus gros magazine business dans le monde. Alors, aux États-Unis, c'est 1 million d'exemplaires, dont 950 000 abonnés.
C'est incroyable.
Donc, en fait, Forbes peut créer n'importe quelle star du business du jour au lendemain. Puisque s'il décide de mettre Estelle Abou en couverture du prochain numéro de Forbes pour la reine des podcasts, n'est-ce pas?
Tu leur en touches un mot.
J'en reparlerai, c'était premier celle. Une semaine plus tard, écoute-moi bien, une semaine plus tard, Forbes, tu seras en couverture sur le bureau de 950 000 patrons décisionnaires américains. Ouais. Voilà. Et sur le web, 100 millions de visiteurs uniques. 50 millions US, 50 millions au reste du monde. Donc ça, c'est Forbes US. Mmh. Et après, Forbes est décliné dans 40 pays. Mmh. Et dans chaque pays, il fonctionne sous format de licence. Et donc Forbes France, c'est tirage 100 000 exemplaires, c'est un trimestriel, donc un book magazine sur l'économie tous les trimestres, et un site internet Forbes.fr qui fait entre 1,5 et 2 millions de visiteurs uniques. Et depuis l'année dernière, on a aussi décliné un certain nombre d'événements, dont le 30 under 30,
ouais.
Les 30 de moins de 30, les 40 femmes Forbes,
ouais.
Et cette année plus à venir, on fait des choses lors du Festival de Cannes, etc. etc.
Mm-mm.
Est-ce que tu as le sentiment que, en France en particulier, on considère Forbes comme un journal de... pas de riches, mais tu vois, un journal qui a vocation à s'intéresser à une seule partie de la population, quoi.
Alors,
privilégié.
Certaines personnes, oui, c'est ceux qui connaissent pas bien le magazine. Mmh. Parce que, comme je dis toujours, effectivement, alors, dans l'inconscient des gens, Forbes est en France depuis des décennies. Mmh. Parce que tout le monde a en tête Forbes, classement des milliardaires.
Bien sûr.
Et ils sont très connus pour ça, effectivement. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils font ce classement. Mais en fait, Forbes, à la base, ça, c'est qu'une toute petite partie visible de l'iceberg. Mmh. Forbes, c'est un magazine sur les réussites entrepreneuriales. Mmh. C'est les gens qui sont retroussés les manches, mmh. qui ont fondé des sociétés, qui ont échoué de nombreuses fois, qui ont créé des emplois. Et certains d'entre eux, mais avant, c'est une infime minorité, ont réussi. Et parmi ceux qui ont réussi, une autre infime minorité ont gagné un petit peu d'argent. Et on ne retient que cela.
Ouais. C'est spécifique un peu à la France quand même, non ?
La France a certains prismes.
Peut-être que tu parles avec tes confrères des 40 autres pays. Je ne sais pas, vous réunissez aussi de
oui,
temps en temps ?
Oui, on essaie de se réunir une fois par an.
Ok.
Puis on a un groupe WhatsApp entre nous tous.
Sympa.
Assez sympa.
Bah oui, ça doit être sympa ça. Voilà une idée d'événement, non ? Ça peut être cool de faire un truc international. Bon, bref, je me suis échappée, excuse-moi. J'aimerais que tu me parles de quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est ta démarche à l'égard des femmes. Parce que je trouve que tu es un patron de presse qui a une démarche hyper féministe. Et ça m'a beaucoup touchée, puisque, pour des raisons que tu connais. Est-ce que tu te considères comme militant ? Est-ce que tu considères que c'est juste normal de faire ce que tu fais ? Ou est-ce que c'est un indispensable, selon toi ?
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. La petite fille de John Malcolm Forbes a créé une rubrique Women at Forbes il y a déjà une quinzaine d'années, sur le magazine okay. et sur le site. Qui s'appelle Moira Forbes, que j'ai rencontré il y a 3 semaines à Davos, je n'avais jamais vu. Donc j'ai un petit peu, entre guillemets, volé l'idée à Forbes, bon j'ai le droit puisque je paye une licence quand même, donc c'est la moindre des choses. Mais dès que j'ai lancé le site, avant de lancer le magazine, donc un an avant, d'entrée de jeu, on a une rubrique sur le site femme at @Forbes. Parce qu'on s'est dit,
okay.
alors, c'est normal, voilà, c'est pas du militantisme, c'est normal pour moi. La femme en tant qu'entrepreneur a autant sa place que l'homme en tant qu'entrepreneur. Et quand tu vois des couvertures de magazines où il y a 40 hommes blancs en chemise blanche et pas une seule femme, ça coince un peu. Et donc, l'idée faisant son chemin, j'ai commencé à faire un premier numéro où là, il n'y avait personne en couverture parce que c'était le 00100, donc le premier numéro. Un deuxième, un troisième, puis je disais, mais ça serait bien de mettre une femme quand même parce qu'on a une rubrique femme à Forbes, mais il faudrait mettre une femme. Et donc, effectivement, en juin dernier, on s'est dit, mais on va faire plus que mettre une femme, on va frapper très fort. On a fait un numéro quasiment exclusivement dédié aux femmes entrepreneurs. Et donc, c'est le numéro qui est sorti au mois de juin l'année dernière, qui a fait la meilleure audience. Donc, les femmes l'ont bien rendu, j'aurais tendance à dire. et on a fait aussi un classement spécifique, les 40 femmes Forbes.
Ouais. Et justement, qu'est-ce que t'en penses de la femme entrepreneur en France aujourd'hui ? Non, mais attends, ma question est peut-être trop large. Est-ce que tu considères que il y a suffisamment de femmes entrepreneurs ? Bon, tu vas me répondre non. Mais j'ai été un peu marquée par une certaine catégorie de femmes entrepreneuses, à savoir des femmes entrepreneuses / influenceuses. Tu vois, il y a ce truc-là aussi qui est quand même très particulier, qui vient un peu des US, hein, faut le reconnaître. C'est un peu une version américaine de l'entrepreneuriat. Mais comme ça, au feeling, si je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans l'économie française et plus spécifiquement entrepreneuriale ?
Bah, elle n'est pas assez importante, clairement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes candidates ? Est-ce qu'on les pousse pas assez ? Est-ce que le système est fait pour les repousser, les rebuter ? Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Moi, j'ai deux associés dans Forbes France, c'est deux femmes.
Ouais, moi, je sais, j'ai vu ça.
Je respecte plus que la parité. Ouais. Et c'est vrai que j'adore m'entourer de femmes parce qu'en fait, les femmes, pour moi, sont beaucoup plus fiables. Elles sont beaucoup plus efficaces. Elles sont multitâches, polychrones, tu appelles ça comme tu veux. Donc moi, j'adore travailler avec les femmes. Parce qu'au moins, tu peux compter sur elle. Les hommes, c'est différent. C'est un petit peu plus dilettante. Ça n'empêche que, comme c'était dans le cas dans le numéro que j'ai lancé au mois de juin, j'ai interviewé la seule femme présidente d'un groupe du CAC 40. Il y en a une seule. Tu sais qui c'est ? C'est Sophie Bellon.
Sophie
Sodexo.
Bellon. Sodexo.
Voilà.
Exact.
Il y a une seule femme présidente d'un groupe du CAC 40.
C'est incroyable.
Non, il n'y a même plus de directeur général, puisque Isabelle Cochère n'est plus.
C'est ça.
Voilà.
Incroyable. Incroyable. Dans tes concurrents, on va dire. D'abord, c'est intéressant de savoir si tu considères que tu as des concurrents dans le milieu de la presse ou des médias.
En France, un média qui traite de l'entrepreneuriat dans le sens le plus noble, je pense pas qu'il y en a. Honnêtement, je suis prêt à écouter. Mais voilà, nous, on parle de l'entrepreneuriat vraiment. Et on parle pas que des entrepreneurs connus. Tu prends notre numéro, il y a plein de gens dont t'as jamais entendu parler. On fait des paris. On essaie de faire monter en puissance certaines personnes, certains jeunes, dont avec notre fameux classement des 30 de moins de 30, les surgeons de sortie justement, où là, chaque année, on a un cru de 30 jeunes, jeunes et jeunes. L'année dernière, on a eu, je crois, 16 et 14, donc on n'est pas loin de la parité, où on met en lumière certains jeunes qui entreprennent de manière disruptive et qui font rayonner la France à l'international. Et ça, c'est vachement important. Donc voilà, c'est ça, Forbes.
Mais il y a quand même un petit bémol, mais je pense que tu l'as remarqué, puisque tu es dedans toute la journée. C'est les milliardaires en France sont majoritairement des héritiers, entre guillemets, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment des entrepreneurs. Est-ce que cette dichotomie, tu la sens ou pas du tout?
Alors effectivement, elle existe, mais il y a aussi des héritiers entrepreneurs, des héritiers repreneurs. Et il y a effectivement quelques entrepreneurs, mais c'est plus une minorité par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis. Chose très différente en France par rapport aux États-Unis, c'est que les milliardaires français sont très peu issus de la tech en France, alors qu'aux États-Unis, c'est une large majorité.
C'est vrai.
Donc, grosse différence, effectivement, de culture, d'histoire. Le numéro un français vient du monde du luxe.
Bernard Arnault.
Voilà, Bernard Arnault, pour pas le citer, vient du monde du luxe. Je crois que le premier milliardaire dans la tech en France va arriver en 15, 20, 25, quoi.
C'est qui?
Xavier Niel, et puis il y a Drahi.
Tu crois encore, et là je m'écarte un peu de ton rôle de patron de presse, mais est-ce que tu penses encore, si elle existait, ça reste aussi une question, à la méritocratie dans l'entrepreneuriat?
J'y crois encore, même si selon les pays, selon...
En France, hein.
Les années, alors en France, oui, j'y crois aussi, effectivement. Je pense que c'est peut-être... plus compliqué en France que dans d'autres pays, où on se dit avec le rêve américain, on arrive, on retrousse ses manches et puis on y va, voilà. Il y a moins de barrières. Depuis 3 ans, notre nouveau président essaye d'œuvrer à ça, de pousser l'entrepreneuriat, de faire pas mal de choses dans la matière.
Excuse-moi. Non, non, c'est qu'en fait, je sors d'un déjeuner avec un ami que je salue au passage, mais... En fait, il part du principe que ce sont les bien-nés qui parviennent à réaliser des choses, tu vois, à être des vrais entrepreneurs, etc. En gros, c'est, je parlais de méritocratie, mais c'est de dire, faut partir avec un asset au départ. C'est-à-dire que si tu viens vraiment, vraiment de nulle part, c'est forcément plus compliqué. Donc, et moi, j'ai un peu le sentiment aussi, pour être dedans aussi toute la journée, mais les réussites entrepreneuriales aujourd'hui, bah souvent, tu te rends compte que c'est des hommes blancs qui ont fait une école de commerce ou sinon qui ont des papas et des mamans, tu vois, d'un milieu social, on va dire, entre guillemets, favorisé. Donc, moi, je me pose cette question encore, et elle est peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc de... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, tu vois, de sortir de nulle part et de parvenir... à être un grand entrepreneur qui crée des emplois et qui fait fortune, quoi. Je sais pas, hein, c'est vraiment alors, une question que je me pose. J'ai pas de chiffres
par rapport à ta question multiple et variée. Alors déjà, plus c'est dur, plus t'as envie de te battre. J'ai tendance à dire. Plus c'est facile, moins t'as envie de te battre. Donc plus c'est dur, plus peut-être tu peux faire quelque chose d'assez extraordinaire. Alors j'ai l'exemple. Alors là, l'exemple a quand même plusieurs dizaines d'années, mais d'un bédouin qui s'appelle Moued Altrad, qui arrivait en France, qui ne savait pas parler un mot de français, il avait 20 ou 21 ans, qui a été ensuite naturalisé français, il est en région de Montpellier. Il a monté le groupe éponyme qui s'appelle Altrad, et c'est le leader mondial dans l'échafaudage et tout ce qui est restauration de centrales nucléaires et autres. Il est parti de rien, avec rien du tout. Donc c'est encore possible. Alors, 20, 30 ans plus tard, est-ce que c'est encore possible? Je pense que oui, c'est toujours possible. Il y a très peu d'exemples, mais je pense que c'est possible, honnêtement.
Je ne sais pas.
T'as l'air dubitative.
Non, mais en fait, je pense qu'on n'y a pas. Alors peut-être encore une fois, c'est les médias qui font pas assez leur travail. Je sais pas, tu vois. Mais est-ce que parce que je vois les femmes sont poussées. Les femmes sont très poussées aujourd'hui. On en entend beaucoup parler. J'en suis ravie. Mais est-ce qu'il y aurait pas aussi un moment une nécessité, tu vois, de mettre en avant des profils, des rôles, on va dire des personnalités modèles. Pour autre chose que des gens, on va dire, favorisés, tu vois, et pour que visuellement, dans la presse, on voit des exemples concrets de gens qui viennent d'une cité et qui ont réussi à faire un truc incroyable. Alors incroyable à leur niveau et comme ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que moi c'est un truc qui m'interpelle. Voilà. Mais bon, je pose ça là. On n'est pas obligé de répondre maintenant, mais c'était une réflexion personnelle parce que je suis obligée de faire un lien. Comment on fait quel est ta, je pense que tu as un journal qui marche. Enfin, on peut dire qu'il marche aujourd'hui.
Ça se passe plutôt bien, oui.
Ça se passe bien.
Il est bien vendu. On remplit pas mal en publicité, donc ça va bien, oui.
Quel est ton secret? T'as un secret? Ça peut être aussi un truc de comportement, un mindset, enfin, tu vois, un état d'esprit.
Ouais, ou... Je pense plus à un mindset et j'appellerais ça, tu as utilisé un mot anglais, donc je vais répondre en anglais, j'appelle la garage mentality.
C'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire
le sens de la démerde.
Faire avec rien.
Ouais.
Voilà. Quand j'ai signé la licence avec Forbes, au début, j'ai signé, j'avais rien. J'ai signé la licence, puis après, j'ai essayé de trouver un petit peu d'argent pour financer. Mmh. Donc voilà, c'est de dire, on va y arriver, il n'y a pas de raison, on trouve une manière de faire, et donc c'est de commencer petit, mmh. et puis d'y aller progressivement. Mmh. Le système de gated funding, ça marche, tu réinvestis, tu as pris un euro, tu réinvestis l'euro et tu continues, etc. Donc c'est d'aller doucement, d'être agile. Alors quand tu pars de zéro, c'est beaucoup plus simple. Et puis de ne pas avoir froid aux yeux, quoi, de prendre des risques.
Et de conserver ton indépendance, c'est important ?
Je pense que c'est important, surtout qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des grands médias économiques sont malheureusement propriétés de grands chefs d'entreprise. Voilà. Mmh. La Forbes France est complètement indépendante.
Mmh. C'est pour ça que je suis très admirative. Je tiens à le souligner. Tu es un des rares, mais après, encore une fois, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Tu es un des rares patrons de presse qui a rencontré Bernard Arnault, je crois. Juste comme ça, ça t'a fait quoi quand tu l'as rencontré?
C'est, on va dire que c'est un personnage assez très médiatique, bien évidemment, sûr. Mais aussi assez discret, assez réfléchi. Mmh. Donc, c'est un moment assez limité.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est émouvant.
Ouais.
Quelqu'un de très professionnel qui ne laisse rien au hasard.
Ouais.
Et effectivement, comme tu l'as cité, Bernard Arnault a accepté de faire une interview pour Forbes, alors que c'est très rare. Il ne s'exprime jamais dans les médias. Mmh. Et alors, c'est pas pour Dominique Busseau, hein, c'est parce qu'il connaissait le sérieux du titre Forbes. Mmh. Forbes, c'est dans la bienveillance. Et donc, il avait confiance en ce titre. Et je lui ai garanti qu'il y aurait même traitement que si c'était avec Forbes US. Et à ce titre, il a accepté de jouer le jeu.
Sans révéler le contenu de l'interview, est-ce que tu as une phrase comme ça ou peut-être quelque chose qui t'a dit pendant l'interview qui t'a marqué?
Alors, ça fait il y a 2 ans. Là, t'es un petit peu dur avec moi.
Ouais, mais non. Tu vois, il y a peut-être... Moi, je me souviens de certaines phrases qu'on m'a dit pendant... Ou peut-être une attitude... Enfin, oui, tu me dis, c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard, mais il t'a peut-être... Il a peut-être marqué ton esprit sur quelque chose, non?
Je me souviens qu'il avait la tête très froide. Mmh. Pas du tout de triomphalisme. Mmh. Tout s'est construit petit à petit.
C'est ça.
Parce qu'il fait partie des entrepreneurs qui ont pratiquement tout bâti de A à Z. Il a récupéré quelques actifs, mais pratiquement rien. Donc il a bâti pendant de nombreuses années. Et ce qui parlait pas mal, c'était la partie la transmission. C'est pas un dû, c'est un devoir. Si je dis pas de bêtises, je crois que je me rappelais
par
quelque chose comme
à qui
ça. Bah, la transmission de l'entreprise, du groupe qu'il a créé.
D'accord.
Et que voilà, c'est pas une évidence de la manière dont la transmission va se passer. C'est qu'il y pense depuis de nombreuses années. Ça, c'est un secret bien gardé.
C'est un sujet hyper important.
Voilà. Mais voilà. Et c'est un sujet très important et très délicat.
Qui préoccupe beaucoup, beaucoup de patrons en France.
Bien sûr.
Tu as une anecdote ou deux à nous raconter, un peu rigolote ou dans ton parcours depuis que tu as repris la licence, enfin depuis que tu as acheté la licence Forbes en France. Est-ce que tu as 2-3 souvenirs comme ça, soit rigolos, soit des choses. Après, ça peut être aussi des personnes, tu vois, des parcours qui t'ont impressionné particulièrement ou tu t'es dit, ouais, cette personne, elle cumule à la fois une réussite financière, un impact social, un rayonnement international, tu vois, enfin un truc où tu t'es dit, waouh, là, il y a tout combiné. Bon, à part Bernard Arnault, peut-être.
Oui, bah, il y a beaucoup d'effets waouh des gens que j'ai rencontrés. Des jeunes entrepreneurs, j'en ai rencontré un certain nombre. Je crois me souvenir du patron de Feed. Je sais pas si tu connais le patron de Feed.
C'est des solutions alimentaires.
Voilà, quand t'as pas beaucoup de temps, des compléments, etc. Voilà. Et
c'est une très belle réussite d'ailleurs.
Voilà, il a à peine 30 ans et son parcours était assez bluffant. Parti très haut, très vite, avec des idées bien arrêtées. Et c'est vrai que c'est super inspirant quoi, d'essayer avec des jeunes qui ont les idées très formatées, même s'ils sont prêts à être très ouverts d'esprit. En tout cas, ils ont un but, ils savent où y aller et ils y vont à fond, quoi. Ils se posent pas de questions, quoi. Et aussi, tous ces jeunes, la plupart de ceux qui sont dans notre palmarès Under 30, c'est une nouvelle génération et ils pensent pas avant tout à s'enrichir de manière personnelle.
Voilà.
Ça, c'est une leçon plus globale, mais dire, c'est comment on peut faire du bien autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut créer? Quel va être l'impact? Quelle va être pas la trace qu'on va laisser, mais qu'est-ce que demain, concrètement, on va apporter à la société? Et comment on peut, par des solutions simples, par les nouvelles technologies, ils sont nés avec un écran de smartphone dans la main, comment ils vont pouvoir faire du bien aux uns aux autres, à leurs ancêtres, à leurs futurs héritiers, etc., etc.
Et donc, selon toi, c'est cette génération-là qui va être un peu plus proche du modèle américain, on va dire d'une bonne facette du modèle américain.
Oui, bonne facette du modèle américain, attention.
Ouais. La facette dont je parle, la bonne facette, c'est le don pour eux est un peu une norme, ce qui n'est pas encore le cas en France, tu vois, à savoir les fondations, enfin, tu vois, et pour eux, c'est normal, arriver à un certain niveau de réussite, c'est normal, soit de créer une fondation, soit de reverser à des associations. Enfin, ils ne le font pas en plus ou on the side ou de manière complètement... je dirais artisanal, c'est vraiment dans leur système. Et je trouve regrettable qu'il y ait tout un pan d'entrepreneurs, tu vois, qui a oublié ça. Alors j'espère que la nouvelle génération va le faire, mais tu sens aussi quand même ce truc, non ?
Clairement, ils sont pas là pour s'enrichir. En tout cas, c'est ce qu'ils clament, et la manière dont ils développent leur entreprise, comment ils partagent l'actionnariat de leur entreprise avec les salariés, comment ils remettent tout sur la table de ce qu'ils ont pu gagner. C'est vraiment une génération à part, je trouve. Et c'est un bol d'oxygène, de fraîcheur qui est incroyable.
Quand tu parles du classement, en fait, on revient juste un petit peu sur le classement. Comment se fait ce classement ?
Lequel ?
Le classement Forbes des fortunes, en fait,
tout simplement. Le classement des milliardaires.
Milliardaires.
Oui.
Pardon. Oui, parce que tu en as tellement en même temps.
Oui.
Mais sur le classement des milliardaires, comment ça se passe concrètement ? Ça s'organise comment ?
Alors, il y a une bonne dizaine de personnes aux États-Unis qui est dédiée à ça, à temps plein, toute l'année. Et ils font des fiches, ils font des enquêtes,
c'est
des dossiers.
C'est du froid, en fait.
C'est un travail de fourmi incommensurable. J'aurai une anecdote à ce sujet-là
dans
quelques instants. Et donc, ils font un gros travail. Et pour la partie française, les équipes US nous délèguent un certain nombre de fiches pour aller voir les sociétés, discuter avec les gens, pour ensuite consolider tout ça au niveau US et faire un classement des milliardaires monde.
Okay.
Donc Forbes, c'est pas un nombre de personnes, c'est juste tous les milliardaires.
Okay.
En France, depuis deux dernières années, depuis qu'on fait le classement en France, il y a à peu près 40 milliardaires en France.
Okay.
Voilà. Et alors, à ce titre, une petite anecdote qui s'est passée aux États-Unis, et ça montre la grosse différence entre les États-Unis et la France. En France, comme vous le savez, c'est vivons heureux, vivons
caché.
Voilà. Donc, moins on en dit, moins on en sait sur la fortune, et plus on peut la diminuer, mieux on se porte.
Alors, les sociétés écrans, tu veux dire ?
Non, c'est pas
ça. C'est pas ça.
On veut juste être discret et voilà.
D'accord.
On commande pas le classement Forbes et le nombre de milliards qu'on a sur notre compte en banque. Alors qu'aux États-Unis, j'en parle encore il y a trois semaines, j'étais à Davos avec le rédacteur en chef de Forbes US qui s'appelle Randall Lane. On a reparlé de cette anecdote-là, c'est qu'il y a, je crois que c'était il y a deux ans, donc le classement Forbes sort chaque année à peu près en mars ou en avril. Un milliardaire l'a convoqué en disant « ça va pas du tout là, le chiffre. Il manque un milliard à ma fortune. » Il l'a convoqué.
Mais non.
Il l'a convoqué. Alors où est-ce qu'il l'a convoqué ? À la Maison Blanche. De qui il s'agit ?
Non.
De Donald Trump.
C'est pas vrai.
Si, si.
Il est incroyable.
Et donc il a convoqué le rédacteur en chef.
Non.
Il lui a pas sommé de changer de classement, mais il a...
C'est un truc de fou, cette histoire.
Le rédacteur en chef a été impassible, il a rien changé du tout. Non. Vous pouvez pas A plus B, voilà, ce sont les amants. Si vous pouvez me prouver le contraire, on regardera avec attention, mais par rapport à nos chiffres, à les informations qu'on a, voilà l'évaluation des classements. Ah, il a rien changé, ça a pas bougé. Mais grosse petite pression.
Ah ouais.
Petite grosse pression.
Ah ouais. Je vois mal Emmanuel Macron faire ça, bizarrement.
Vous avez mis 3-0 de trop, monsieur. Il y a un problème. Ah, c'est la dichotomie entre la France et les États-Unis.
Ouais. Bah d'ailleurs, tiens, voilà une question que je pose de manière assez récurrente, qui est une question assez large, j'en conviens. Mais puisque tu as une expérience, que tu es entrepreneur, que tu as eu quand même un parcours axé sur les médias, quelle est ta vision de l'économie française aujourd'hui ? Je sais que ça paraît un peu large, mais comme ça, à brûle pour point, qu'est-ce que tu penses de l'état économique du pays aujourd'hui ?
Le juste mot serait pas en gestation, mais en phase de
mutation.
De mutation, de
transformation.
Le patient est sous perfusion, en observation clinique, on va dire.
Ah ouais, carrément.
Non, mais dans le sens où mais vraiment, encore une fois, et c'est mon fond de commerce, et on a plein de super entrepreneurs, on a plein de bonnes idées, comme on dit toujours hein, en France, on a pas de pétrole, mais on a des idées. Mmh. On a des idées, alors souvent on se les fait piquer, souvent on les applique mal, souvent on est très tôt. Pour parler du Minitel, hein, on était à l'avant-garde de l'Internet. Voilà, on a plein de bonnes, super bonnes idées, mais on a franchement beaucoup de freins. Mmh. Ça peut être dans l'administration, enfin, même surtout dans l'administration. Dès qu'on crée une boîte, hein, vous le savez, on est à peine créé la boîte, on n'a même pas fait 1 euro de chiffre d'affaires, il faut déjà payer des cotisations, l'URSSAF, etc. Donc c'est très compliqué. Donc, mais on a un potentiel, il faut savoir l'exploiter, et il faut se battre, et puis il faut être français, il faut être patriote, il faut rester en France, c'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut se barrer, ou quand on est en phase de réussite, se barrer, il faut rester en France, et puis essayer de pouvoir développer, et puis rendre, malgré tout, à la France, qu'elle nous a donné, l'éducation, la santé.
Bien sûr.
On parlait des États-Unis, la différence des États-Unis, bah alors aux États-Unis, faut pas être malade et puis être pauvre, parce que alors là, la méritocratie, c'est pas possible, hein. Parce que si on n'a pas plusieurs dizaines de milliers de dollars sur son compte en banque, faut pas compter faire une université.
C'est clair. C'est clair. Et climat social, t'en penses quoi ?
Climat social, tu as parlé aux restaurateurs, aux commerçants, à ceux qui font 70% de leur chiffre d'affaires au mois de décembre, depuis 2 ans, bah c'est catastrophique. Mmh. Enfin, je veux dire, il faut réformer quoi qu'on en pense, il faut réformer. Mais on vit dans un immobilisme où dès qu'on va changer la moindre chose, c'est compliqué, voire impossible. Donc c'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle.
Bien sûr. Est-ce que tu as des challenges que tu peux révéler, dont tu peux parler pour le journal ? Des challenges, excuse-moi pour le jeu de mots, mais des...
Très mauvais jeu de mots.
Excuse-moi. Non, mais des projets ou appelle-les comme tu veux, tu vois. Mais est-ce que tu as des choses là dans le pipe qui vont
2020,
sortir bientôt
2020, et c'est ce que font la plupart des médias qui leur permet de gagner de l'argent, enfin d'être plus profitable. C'est la partie événementielle
ouais.
Donc, on a fait 3 événements l'année dernière. On a fait les Under 30, on a fait les 40 femmes Forbes, on a fait un événement autour du Festival de Cannes. Mm-hmm. On a fait des soirées avec des partenaires sur le yacht Forbes. Cette année, on veut faire ces mêmes événements, mais on a inventé de nouveaux. Mm-hmm. On a en tête faire quelque chose autour de la philanthropie. Mm-hmm. Quelques choses qui sont en boîte. Mm-hmm. Donc voilà, donc effectivement, la philanthropie, c'est un sujet qui est assez intéressant parce qu'il n'a pas vraiment été traité en France. Mm-hmm. Donc on va s'y atteler de près. Mais voilà, donc c'est la partie événementielle. Et puis bien sûr, faire croître nos audiences. Imposer Forbes comme une vraie marque. Alors, c'est déjà au niveau global. En France, je pense qu'on commence à marquer notre territoire. juste à voir le nombre de sollicitations qu'on a pour interviewer les gens. Mmh. Alors, les gens qui veulent être en couverture, j'ai 4 couvertures par an et j'ai à peu près 500 demandes. Donc,
Ah, t'as vraiment des demandes de gens qui te disent est-ce que tu peux faire ta couve ?
Si, une autre anecdote, c'est... je cite pas de nom quand même, mais c'est bon, bah ok pour l'interview. Par contre, il y a la couve, on est bien d'accord. Je dis, ah bah non, la couve, je peux pas la garantir. Ah bah s'il n'y a pas de couve, il n'y a pas d'interview. Je dis, bon, il n'y a pas d'interview. Puis une semaine après, bon bah on fait comme l'interview. Hein.
Qui donne le fin mot d'ailleurs pour la couve ? C'est toi ?
C'est moi.
Ouais.
Voilà. Et puis alors, on fait des conférences de rédac et des provisions.
Sur ces choix-là.
Alors, je dois dire et je dois souligner par rapport à d'autres licences de marque dans le monde des médias et de la presse. Que je connais un petit peu.
Ouais. Que t'es très
libre. C'est très cool. C'est-à-dire que je prends ce que je veux du contenu américain. Et en l'occurrence, sur la version papier, je ne prends presque rien, à part les classements. Donc 95% du magazine est fait en France, avec mes quelques journalistes, pigistes et mes 350 contributeurs. Mmh. Et le magazine, ils le reçoivent une fois qu'il est en kiosque en France. Donc, aucune imposition éditoriale.
C'est ça.
On ne m'impose pas de faire une coupe parce qu'ils ont fait un deal global dans le monde entier. Non, non. Je suis très libre à ce niveau-là et c'est très agréable.
Tu crois encore au kiosque ?
Oui.
Ouais. Ça marche encore ?
Ah bah écoute,
toi tu es diffusé
pour
à...
nous ça marche. Hein. On arrive à faire des beaux scores. Mmh. C'est vrai que c'est pas facile, il y en a de moins en moins. Il faut faire de bons réglages, mais c'est une manière d'exposer ta marque. Et nous, je touche du bois, ça nous fait aussi gagner de l'argent. Donc voilà. Mais c'est vrai que le modèle doit être renouvelé. Je pense que ça fait quelques années maintenant, tu peux trouver la presse dans chez... ta grande surface. Bon, alors les relais H se sont pas mal développés dans les gares,
ça,
les aéroports et autres.
Même,
ça marche plutôt bien, effectivement. Ouais. Mais je pense qu'on a trouvé d'autres relais de croissance parce que les kiosquiers souffrent et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux non plus.
Terrible. Les patrons. Est-ce que tu fais parler des patrons ? Est-ce qu'ils prennent la plume de temps en temps ?
Oui.
Ouais.
Ils écrivent des tribunes. Ou alors, on les interviewe et on en fait des portraits. Mais oui, les patrons parlent.
Ok.
Plus qu'il y a un certain nombre d'années.
Ouais.
Ils sont un peu plus disert.
Ouais, c'est pas facile.
Alors
de faire
des fois, il faut les mettre
patrons.
En confiance. Ouais. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je prends l'exemple de Moued Altrad que j'ai interviewé il y a un an. Je suis arrivé, il était un peu renfermé et au bout d'une demi-heure, il a commencé à s'ouvrir et on a eu un vrai dialogue, de vrais échanges.
Parce que j'ai souvent parlé, je suis entouré d'entrepreneurs très discrets. Qui refusent de prendre la parole parce qu'ils me disent j'ai pas assez réussi ou je veux me taire, je veux rester dans le silence, je veux pas qu'on me voie parce qu'après
toujours
je suis bloqué.
Vivre heureux, vivons.
Ouais, mais
vivre heureux,
parce cacher. Qu'en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, quand quelqu'un se projette dans la lumière, il reste bloqué dans son image en fait, tu vois, parce qu'après, t'as un rôle médiatique, t'as une image médiatique. Parfois, c'est décorrélé de la réalité de ton entreprise. Donc, c'est vachement. Enfin, ça peut être très dangereux pour eux. Parce qu'ils vont révéler des choses ou ils vont dire des choses et après, ça va les enfermer dans une réalité qui n'est peut-être pas la réalité du quotidien le lendemain, de leur entreprise qui tourne. Et voilà, et c'est vrai que j'ai souvent vu des entrepreneurs de mérite, en tout cas que moi j'estime beaucoup, qui sont très discrets, qui ne veulent pas parler et qui tout simplement attendent, tu vois, d'arriver à un certain stade, entre guillemets, de réussite pour pouvoir prendre soit le micro, soit passer à la télé, mais... Je pense qu'il y a un truc à faire sur... Parce que je trouve qu'on voit toujours les mêmes, tu vois ?
Alors c'est
un
vrai
peu.
Que...
J'avoue que je trouve qu'on voit tout le temps les mêmes.
On voit beaucoup les mêmes, mais je t'invite à reprendre toute ta collection Forbes et tu verras qu'on parle de beaucoup d'entrepreneurs qu'on ne voit pas forcément ailleurs.
Je suis d'accord, mais toi, t'es un peu le rare. Enfin, tu vois, tu fais un peu figure d'exception.
Alors,
parce que...
J'ai l'avantage et la chance, comme tu dis, effectivement, les patrons et les envers ne veulent pas trop parler, mais d'avoir une marque qui est tellement forte et qui a tellement un prisme, un angle positif qu'ils sont prêts à jouer le jeu. J'ai encore récemment interviewé un grand patron. Bon, il a réussi, il est milliardaire il y a quelques semaines. La dernière interview qu'il a accordée, c'était il y a 6 ans. Voilà. Pourquoi ? Encore une fois, comme le cas de Bernard Arnault tout à l'heure, parce que c'est force, parce qu'on est bienveillant, parce qu'ils savent que c'est sérieux et qu'on va pas aller... vouloir leur trouver des casseroles ou quoi que ce soit. On veut vraiment montrer un prisme positif et montrer tout ce qu'ils font de positif dans l'écosystème entrepreneurial français.
Ouais, et je pense que ce qui peut vraiment être utile, et après à discuter, hein, c'est un numéro sur l'échec. C'est un peu large, mais des gens qui parlent de la difficulté, des gens qui parlent vrai, tu vois, parce que c'est tellement simple de raconter une histoire avec du recul et avec, je sais pas, 30 ans, 15... on raconte toujours ce qu'on veut raconter finalement. Mais je pense que ce qui peut servir à l'audience, tu vois, des jeunes entrepreneurs qui arrivent sur le marché, et pas que des entrepreneurs, hein, finalement, bah, de tout le monde, c'est de parler vrai et de parler des échecs et de
pas
comment.
Pas de bois.
Ouais.
Mais à chaque fois quand j'interviewe.
Et je sais que vous le faites, hein, enfin.
Je parle.
Je sais.
Alors, quels ont été vos échecs? Mais... comment ça s'est passé?
Ouais. Mais un numéro, tu
qu'est-ce
vois.
Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors, il faudrait trouver ouais, le côté positif de l'échec. Ils ont échoué, mais ils ont réussi.
Positif,
enfin,
ouais.
Ouais, ouais, c'est.
Ou quand j'ai les mains dans le cambouis, comment je fais pour m'en sortir? Enfin, tu vois, un truc un peu. Ouais, un peu plus réaliste. Mais bon, écoute, c'était une idée comme ça, mais revenons
c'est une
à.
Bonne idée.
On en reparlera. Mais revenons à. Oui, ça aussi, c'est des questions récurrentes, à savoir un coup de cœur et un coup de gueule. Tu commences par ce que tu veux.
Ouais.
Peut-être le coup de gueule d'abord, peut-être.
Ah, un coup de cœur. J'étais à une conférence appelée Les Sommets du Digital il y a 15 jours.
Ouais.
Et il y avait une certaine, alors faut pas que je me trompe dans son prénom, je crois, Virginie Delalande.
Oui, j'en ai entendu parler.
Qui est sourde et qui parle et qui nous a fait un one woman show sur scène en montrant, bah voilà, j'avais tous les handicaps du monde. Elle nous a raconté comment elle a voulu devenir avocate alors qu'elle ne pouvait pas entendre. Comment on l'a découragée lors d'un entretien pour un stage. À la fin, on lui a dit, le mec, l'avocat, lui a dit « Mais vous êtes sérieuse ou quoi, là? Vous voulez vraiment prétendre être avocate alors que vous êtes sourde ?» Et ça l'a renforcée, ça l'a galvanisée. Elle s'est battue, elle a passé son diplôme et tout. Elle a même pu dire « Zut !» à ce stage parce qu'elle a pu en trouver un autre en parallèle. Voilà, donc là j'avoue que c'était t'es bluffant et là tu dis bon bah mes problèmes je les mets de côté quoi parce que c'est rien quoi.
Et pourquoi elle était à ce sommet du digital? Qu'est-ce
elle
qu'elle
est invitée comme keynote
d'accord,
speaker juste pour le côté
juste
inspirationnel
pour...
Voilà,
d'accord.
Pour un peu donner un coup de boost.
Tu lis un peu? T'as le temps de lire?
Malheureusement pas beaucoup.
Ouais. T'as pas lu un bouquin récemment, un truc qui t'a appris?
Un des dernier que j'ai lu qui était bluffant, c'est l'autobiographie en anglais de Elon Musk.
Ah ouais, je l'ai pas lu, tiens.
Et c'est prêt à tout risquer, à tout miser, assez impressionnant. J'ai bien
il
aimé.
Il est impressionnant, c'est sûr. Et un coup de gueule?
Un coup de gueule, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est y en a marre de tout bloquer en France, quoi. Je veux dire, c'est bien beau de protéger ces petits précarés. Voilà, mais à un moment, on est tous dans la même barque et puis si on s'ouvre pas au monde extérieur, on va jamais y arriver, quoi. Il y a le Brexit qui est une énorme opportunité pour nous.
C'est vrai.
Mais quand tu parles, je parle beaucoup, je voyage beaucoup à l'étranger, surtout aux Américains, mais ah bah non, en France, bah non, en France, parce que il y a des émeutes, il y a le feu, c'est très dangereux, on annule nos vacances, on vient pas, mais est-ce qu'on peut venir en France? Mais c'est incroyable. Alors après, bon, les médias en font une tonne. Les médias étrangers, ils montrent les photos de ce qui ne va pas et tout, c'est affligeant.
On a l'impression que c'est une guerre.
C'est du
sensationnalisme.
Voilà, c'est effarant. Mais voilà, donc il y en a un petit peu marre. Chacun veut préserver son petit précaré. Bah, on n'aura peut-être pas de retraite, bah oui, mais bon, voilà. C'est pas en se battant pour les acquis d'aujourd'hui qu'on aura des acquis demain.
T'as un message à passer ou une chose que t'as envie de dire ou peut-être une question que je t'ai pas posée, que t'aurais voulu que je te pose ou... Parole libre.
Parole libre.
Ouais.
Non, mais il faut. Tu as des doutes sur la méritocratie, on t'a parlé tout à l'heure.
Ouais.
Mais alors c'est très bateau, mais il faut croire en ses rêves et puis pas hésiter à foncer dans le tas. Moi, l'exemple, c'est avec Forbes. Je me dis, est-ce que j'y arrivais ou pas? Bah, j'y suis allé.
C'était un rêve.
J'ai force. Bah, un moment quand j'ai commencé à discuter avec eux, je pouvais pas. Ne pas envisager de le faire. Et puis, bah, je me suis battu, et voilà, j'ai réussi. Parce que j'y croyais, j'ai tenu, et ça a duré de nombreux mois. Surtout, ne pas écouter les médisances autour de vous. Les gens qui, au début, ils m'ont procéré, puis après, ils m'ont dit, mais t'es un baltringue, c'est n'importe quoi, tu vas jamais y arriver. C'est quoi ton histoire? Ça fait 6 mois que tu nous serines avec ça, et voilà. Et donc, faut jamais se décourager, il faut... S'il y a une personne en qui vous faut essayer d'avoir confiance, c'est vous. Et pas votre voisin... votre conjoint, n'importe qui
ça,
d'autre.
Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Dominique, merci beaucoup.
Merci Estelle.
C'était super chouette d'échanger avec toi. Très bonne route à toi. Et
merci.
À bientôt.
Très bonne route au podcast d'Estelle.
Merci.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.